Donc aujourd'hui, nous recevons Claude Fischler, qui est sociologue et anthropologue, qui est directeur de recherche au CNRS et qui appartient à une équipe de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Parmi ses recherches récentes, il a fait des recherches sur la pensée magique, sur les attitudes vis-à-vis de l'alimentation, de la santé, du plaisir et du corps dans les diverses cultures. Parmi ses recherches actuelles, il y a ses recherches sur la perception du risque en matière d'alimentation, notamment les études sur la crise de la vache folle et la perception des OGM. Son ouvrage « L'omnivore » a été couronné en 1992 du prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Et outre de nombreux articles qu'il a écrits dans de nombreuses revues, je mentionnerai parmi ses publications « L'omnivore », donc qui a été l'ouvrage qui a été couronné, qui est paru chez Odile Jacob en 1990, mais qui a été réédité il y a 3 ou 4 ans. « Manger magique », qu'il a sous sa direction, qui est paru aux éditions Autrement en 1994. Et il vient de sortir un ouvrage également chez Odile Jacob en 1999 qui s'appelle « Du vin ». Claude Fischler, donc, je vous donne la parole pour 50 minutes. Merci.
Merci. Entre 5h et 6h du matin, on a une excuse si on est soporifique. Alors, j'ai intitulé cet exposé « Savoir ce qu'on mange » parce que j'ai cherché à le rapporter à l'actualité. Et la question de sécurité alimentaire étant couramment invoquée ces temps-ci, je me suis dit que j'allais commencer par une sorte de petite revue de presse. Donc partir de l'actualité, revenir à des questions un petit peu fondamentales sur le rapport que nous autres, Homo sapiens sapiens, nous entretenons avec nos aliments, et puis, armé de ces outils, revenir une dernière fois à des choses actuelles pour essayer de les voir sous un jour un peu plus précis. L'actualité, c'est ça. Si on en juge, en tout cas par les alarmes médiatiques. Ce qui est en cause, ça a d'abord été les productions ou les sous-produits plutôt de la modernité en développement dans notre alimentation. Et puis dans la période la plus récente, c'est devenu un peu plus compliqué parce que là où il était question surtout de problèmes de nature, disons, chimique, dans notre alimentation, on a commencé à voir dans les médias, mettre sous le même, et pas seulement dans les médias d'ailleurs, mettre sous la même rubrique la listeria, la dioxine, la vache folle, quoi donc, le Coca-Cola mystérieusement toxique, et d'autres crises que nous avons traversées ces derniers mois. Alors, il y a une grande continuité dans les médias, si on regarde un petit peu les thématiques et même les modes de représentation graphique, on se rend compte qu'il y a une certaine constance et qu'à peu près deux fois par an, depuis quelques années, on a pour chaque hebdomadaire, par exemple, ce genre de couverture qui peut éventuellement alterner avec quelque chose d'un tout petit peu plus neutre comme ça. Et ici, là, c'est caché dans un petit coin, ça va quand même très très loin, les inquiétudes, vous voyez, y a-t-il encore du raisin dans le vin français. Bien entendu, ça n'est pas une préoccupation exclusivement française, comme vous pouvez bien le penser. Il y a un an ou deux, on a eu une très grave crise aux États-Unis causée par Escherichia coli dans la viande hachée, dans le hamburger. On trouve assez souvent des problématiques un peu différentes des nôtres, c'est-à-dire qu'il est plus souvent question peut-être du bien-être animal, enfin de ce qu'on appelle par euphémisme le bien-être animal, c'est-à-dire les problèmes à la fois éthiques et médicaux, disons, que peuvent poser les techniques d'élevage intensives. Alors, est-ce que ça ne devient jamais positif ou optimiste? Si, bien sûr. Ici, vous voyez qu'il est question d'une révolution diététique. C'est-à-dire que si je comprends bien, la crise des toxicités dans notre alimentation, d'après les auteurs, devrait permettre de passer sans transition à une situation dans laquelle nous serons tous au régime, je suppose. Et comble de l'optimisme, ce sont les aliments qui soignent, c'est-à-dire ce qu'on a baptisé aujourd'hui les nutraceutiques ou alicaments, c'est-à-dire transformer, réduire ou peut-être supprimer, après tout, la frontière qui sépare, dans nos têtes en tout cas, l'aliment du médicament. Alors, ce qui m'intéresse dans la manière dont nous sommes mobilisés par les craintes ou les inquiétudes dans le domaine alimentaire, c'est finalement le fait suivant. Si on compare la manière dont les gens dont c'est le métier, vous les avez ici dans cette colonne, perçoivent les, ou plus exactement évaluent les risques alimentaires, si on compare ça avec ici, comme l'a fait ce chercheur Slovic en 87 dans un travail qui est maintenant classique, si on compare avec la perception qu'on a du même danger, du même risque, pardon, quand on est profane, ici il s'agit de membres d'une ligue féminine, là de membres d'étudiants et ici de membres d'un club sportif. Alors qu'est-ce qu'on leur a demandé à ces gens-là ? On leur a demandé de donner une note à chaque risque dans une série qu'on leur présentait, avec la note la plus élevée pour le risque qui leur paraissait le plus redoutable. Et donc on obtient des classements des moyennes. Et qu'est-ce que ça donne ? On s'aperçoit qu'il y a des disparités considérables. Pour en prendre deux, regardez ce qui se passe quand on regarde le nucléaire, voyons ça de plus près. Par exemple, l'énergie nucléaire pour les membres de la Ligue féminine est classée numéro 1, c'est le risque le plus inquiétant. Alors que les experts ici, les experts, c'est-à-dire ce sont des scientifiques, des gens dont c'est le métier d'évaluer le risque, ne le classent qu'en 20e position. En revanche, les rayons X, c'est-à-dire en gros les abus de radiologie, radioscopie, ne sont pas du tout préoccupants pour les profanes, mais viennent assez haut sur la liste pour les experts. Et donc la question, c'est pourquoi cette disparité, finalement, que nous constatons tous les jours dans les questions alimentaires, ici et maintenant. Par exemple, tout le monde, ou presque tout le monde, dans le grand public, est très inquiet des conséquences pour la santé, à long terme ou même à court terme, des produits chimiques divers et variés qui passent dans notre alimentation, qu'il s'agisse d'additifs, qu'il s'agisse de colorants, qu'il s'agisse de pesticides ou de résidus de pesticides, etc. Et quand on parle aux experts, aux toxicologues, etc., on s'aperçoit que pour eux, n'y a pas grand-chose d'établi. Ils vous expliquent que Céveso, tout le monde est persuadé qu'il y a eu plusieurs centaines de morts, et à Céveso, il n'y a pas eu un seul mort. Le professeur Louiseau dit en riant, il y a eu un mort, c'était le directeur de l'usine qui a été abattu par les brigades rouges. Bref, enfin, il n'y a pas de quoi rire d'ailleurs. Bref, il y a un divorce qu'on peut appréhender dans beaucoup de domaines, dans les risques alimentaires, entre les gens dont c'est le métier de suivre ces risques et le grand public. Et jusqu'il y a quelques jours, les experts se plaignaient de ce que le grand public soit si difficile à mobiliser quand il s'agissait de risques non pas chimiques, mais bactériens. C'était les risques biologiques qui inquiétaient le plus les experts. C'était la listeria, c'était Escherichia coli, c'était les toxi-infections, etc. Tout en disant en même temps que ça n'était pas un énorme risque de santé publique parce que le nombre de cas est très réduit, il n'a fait que diminuer, mais encore une fois, d'après les experts, que vous allez entendre dans les jours qui vont venir d'ailleurs, c'est de ce côté-là qu'il y avait, s'il y en avait un, plutôt un problème. Alors, comment s'expliquer donc ces divergences ? Après tout, ça peut s'expliquer aussi par le fait que nous avons tous notre propre façon de juger du risque et du danger ou du péril associé à telle ou telle situation. Vous voyez ici une dame qui est dans un canot de sauvetage, il y a le Titanic ou paquebot qui est en train de couler, et elle dit « Oh, après tout, ça vaut peut-être mieux comme ça, tous ces repas étaient d'un gras. » Il y a là implicitement une évaluation tout à fait particulière du risque comparatif, n'est-ce pas ? Rester sur le bateau, ça aurait peut-être été plus dangereux à cause de la ration lipidique. Bien, plus sérieusement, encore que c'est très sérieux, il faut se poser la question de ce qu'on sait sur les facteurs qui influent sur la manière dont nous percevons le risque. Alors, il y a plusieurs rubriques que je vais aborder plus ou moins rapidement. Il y a d'abord les caractéristiques du risque lui-même, il y a des configurations de risque, si vous voulez, qu'on a pu étudier et analyser, et qui font qu'on est plus ou moins mobilisé, plus ou moins anxieux, plus ou moins angoissé par un risque quelconque. Il y a des caractéristiques qui nous sont propres à nous, sujets percevants, qui sont d'ordre psychologique, cognitif, etc. Et puis il y a une série de facteurs anthropologiques sur lesquels je passerai un peu plus de temps, qui tiennent, et qui sont alors là véritablement spécifiques à l'alimentation, et qui tiennent à notre rapport particulier à l'alimentation. Et puis, il y a des facteurs de différenciation sociale et culturelle, sur lesquels je voudrais vous dire quelques mots en dernier lieu. Alors, je vous ai dit qu'on a répertorié des configurations de risques qui sont plus ou moins de nature à stimuler l'indignation de chacun de nous, disons, ou la mobilisation ou l'anxiété de chacun de nous. Les Américains, les chercheurs anglo-saxons pour l'ensemble, pour la plupart, qui ont travaillé là-dessus depuis les années 80, les psychologues en général, ont appelé ça les outrage factors, des facteurs non pas d'outrage mais d'indignation. Et si vous voulez, on peut les classer, pour vous en donner un échantillonnage, en deux colonnes. D'une part, ce qui augmenterait ou ce qui diminuerait l'indignation. Alors il y a des choses assez évidentes, n'est-ce pas ? On est un peu dans le domaine du bon sens. D'abord, il y a le facteur proximité. Si c'est à côté de chez vous, c'est quand même plus mobilisateur que si ça se passe à l'autre bout de la planète. Il y a une dimension absolument essentielle dont nous avons tous intuitivement conscience, mais enfin, qui est très très présente, qui est la dimension, le caractère imposé ou pas du risque que nous subissons. C'est-à-dire que la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'aller faire du ski, paraît-il, ou l'une des choses les plus dangereuses en ce moment. Personne ne va se mobiliser ou s'indigner s'il arrive un accident, si lui arrive un accident de ski à l'issue d'une décision prise personnellement. Un petit peu dans le même ordre d'idées, vous savez qu'il y a environ 10 000 morts par an sur les routes en France, enfin 8 à 10 000, et donc c'est une chose très très dangereuse. On éprouve rarement une grande angoisse au moment de se mettre au volant, et la raison en est que, évidemment, la maîtrise appartient à l'individu qui conduit. Ou plus exactement, la décision est bon. Et si vous ne pouvez pas faire confiance à vous-même, à qui d'autre, à qui donc pouvez-vous faire confiance ? Donc le danger vient des autres. Et ce risque-là, nous avons tendance à le sous-estimer ou en tout cas à le considérer avec moins d'inquiétude. Il y a un facteur d'aggravation de cette situation de risque imposé, non ? C'est quand la conscience existe, et là vous pouvez commencer à appliquer ces dimensions à certaines situations dont on parle aujourd'hui, et je pense que vous verrez qu'on peut prédire un petit peu les réponses sociales. Si le risque est perçu comme profitant à quelqu'un d'autre, mais pas à soi, par opposition à un risque gratuit, bien entendu, on est plus dans la mobilisation et l'indignation. Il y a l'idée de maîtrise qui est différente, en fait, de l'idée d'imposition ou de volonté. La maîtrise, c'est une fois qu'un risque est déclaré, est-ce qu'il est facile d'éviter ce risque ? C'est-à-dire, est-ce que le risque est identifié ? Est-ce qu'on peut le localiser et est-ce qu'on peut adopter des comportements qui permettent de s'en prémunir ? Il y a des cas où c'est très difficile. Supposons que l'eau du robinet soit contaminée, c'est quand même assez difficile d'éviter l'eau du robinet quotidiennement, que ce soit pour des usages culinaires, hygiéniques, etc. Bon. Risque humain, risque naturel. Bon, a priori, en théorie du moins, on ne va pas s'indigner de risque naturel, encore que. Nous voyons tous quotidiennement qu'un risque naturel ne reste jamais longtemps aussi naturel que ça et qu'il y a une tendance, j'allais dire naturelle, à rechercher des responsabilités et à identifier des responsabilités humaines, c'est-à-dire qu'en somme, cette distinction risque humain-risque naturel ne vaut que provisoirement parce qu'apparemment nous sommes beaucoup plus intéressés par la recherche de coupables que par la compréhension de causalités complexes. Technique inconnue ou familière, une technique familière va en général être moins mobilisatrice s'il y a un problème qui se pose. Par contre, évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe du côté des biotechnologies, ça fera sans doute autant de bruit qu'aurait fait un accident de chemin de fer au XIXe siècle époque où on pensait que c'était une technologie tout à fait nouvelle et périlleuse. Bon, ça, ce sont les configurations de risque, en gros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, proprement dit? Alors, la première chose, c'est qu'on a du mal avec le raisonnement probabiliste. On a toutes sortes d'études qui nous montrent maintenant que le raisonnement probabiliste, statistique, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif. C'est même le contraire. Et il y a des erreurs, si vous voulez, l'équivalent pour le raisonnement d'erreurs d'illusions d'optique ou quelque chose comme ça, qui sont très répandues, y compris d'ailleurs dans certaines expériences chez des gens qui ont un minimum de formation à la statistique. Donc le problème, c'est que quand il est question de risque alimentaire, d'alimentation, de risque en général, de risque alimentaire en particulier, on est tout de suite dans un débat probabiliste. Il y a un risque, monsieur, demande le journaliste. Oh, il y a un risque, mais il est négligeable. Négligeable, c'est déjà pas une très bonne réponse, parce que ça veut dire qu'il y a de la négligence quelque part. Mais surtout, il y a un risque négligeable, ça peut être interprété comme il y a un risque. Alors il y a un risque ou il n'y a pas de risque? C'est que, si vous voulez, nous avons tendance à raisonner dans ce domaine comme dans d'autres, en termes binaires et pas en termes gradués, un petit peu comme dans le domaine de la nutrition, des calories ou d'autres choses. Vous savez, quand on demande aux gens, est-ce que tel ou tel aliment fait grossir ou ne fait pas grossir, ils sont toujours très à l'aise pour répondre. Les pommes de terre font grossir, le pain fait grossir, et les haricots verts ne font pas grossir, quelle que soit la dose. Cette idée de dose, la dose qui fait le poison selon Paracels, elle ne rentre pas dans nos têtes de façon spontanée, semble-t-il. Et c'est un problème. Et puis, bien entendu, il y a toujours l'histoire de l'oncle Albert qui, en dépit de toutes les statistiques, de toutes les séries implacables qu'on peut asséner, a fumé toute sa vie 2 paquets de cigarettes par jour et est arrivé à l'âge de 95 ans sans encombre. Une seule expérience de ce genre, un seul exemple de ce genre suffit quelquefois à discréditer des énoncés extrêmement rigoureux et fondés encore une fois sur des statistiques implacables. Bon, d'une manière générale, et là on rentre, si vous voulez, dans le vif du sujet, l'alimentation, c'est un domaine particulièrement sensible. Pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est la consommation la plus intime. C'est-à-dire que, supposons que vous soyez industriel de l'agroalimentaire, ce que je vous dirais maintenant, c'est que vous avez un métier difficile parce qu'il consiste à fabriquer des choses et à vendre des choses qu'il va falloir faire avaler aux gens. C'est-à-dire que l'acte de consommation alimentaire, il est différent de tous les autres parce qu'il s'agit de passer la barrière de la bouche, de l'organisme, de pénétrer dans le corps des gens. Et il s'agit en somme de leur vendre quelque chose qui va devenir partie intégrante d'eux-mêmes. Ce n'est pas seulement qu'ils vont le brûler comme un carburant, mais c'est que ça va participer à la composition corporelle. Alors évidemment, sur le plan symbolique, vous imaginez tout ce que ça peut impliquer, et puis sur un plan biologique, proprement biologique et tout à fait organique, c'est au moins aussi important, bien entendu. Et on le voit particulièrement quand on examine la perception des aliments d'origine animale, parce que le paradoxe, c'est qu'ils sont à la fois les plus recherchés, la viande par exemple, dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés humaines, il n'existe à ma connaissance aucune société, aucun groupe humain qui soit intégralement végétarien. Il y a des castes, il y a des groupes, il y a des minorités, mais il n'y a pas de groupe humain, ou alors je l'ai loupé dans le fichier des Human Relations Area Files, là, qui est la base de données que nous utilisons. La viande, par exemple, est adorée et abhorrée. Adorée parce qu'en effet recherchée, et abhorrée parce qu'elle fait l'objet des tabous, des aversions, des interdits divers et variés. C'est la plupart du temps sur des produits d'origine animale que tout ça porte. Il y a probablement de tout temps eu quelque chose de l'ordre de l'anxiété qui s'exprimait à travers des peurs et des rumeurs alimentaires. Ce qui est, je sais pas, période de crise, période de guerre, période de pénurie, période d'épidémie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des phénomènes, toutes proportions gardées, analogues de nos jours. Et ceux-là, ils ne sont pas liés à l'archaïsme, mais au contraire à la modernité, à la production industrielle, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, voilà un exemple intéressant. Il y a un document qui circule qui s'appelle le tract de Villejuif. Probablement certains d'entre vous l'ont vu, même certainement certains d'entre vous l'ont vu, parce qu'il date de 1900. La première fois qu'on l'a vu, c'était en 1971. Il y a donc 30 ans que des variantes diverses et variées de ce document circulent. Et qu'est-ce que c'est que ce document? C'est un document soi-disant à l'entête de l'hôpital de Villejuif qui met en garde contre les additifs, les pesticides, les additifs, les colorants, etc., les conservateurs, codés sous la forme E quelque chose, et qui seraient gravement cancérigènes, plus ou moins gravement cancérigènes, dans notre alimentation. Donc on demande aux sympathisants motivés de l'afficher, de le diffuser, de le polycopier, etc. Et le produit réputé le plus dangereux ici, c'est E330. Et E330, qu'est-ce que c'est? C'est l'acide citrique. L'acide citrique qui donne le goût acide aux agrumes, donc l'acide citrique est réputé être gravement cancérigène, du moins dans ce document. Et en dépit des démentis qui n'ont pas manqué aussi bien des pouvoirs publics que des autorités diverses et même des organisations de consommateurs, dans certains cas, ce tract a continué à circuler et il y a plusieurs variantes, encore une fois. Bon, voilà qui reflète quelque chose de très profond. D'autant plus que quand Jean-Noël Capferrère, il y a quelques années, a essayé de regarder sur le terrain où est-ce que ce tract circulait le plus volontiers, il s'est aperçu qu'il était affiché dans les salles d'attente de certains cabinets médicaux et que des gens très bien intentionnés l'avaient diffusé dans les écoles. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans nos têtes, parce que nous sommes tous mobilisés, inquiétés, anxieux devant ce genre d'interrogations, de questions ou de soupçons, je voudrais vous entraîner dans les 10 minutes qui suivent un petit peu au fond, si vous voulez, de notre rapport à l'alimentation avec des choses un peu générales, mais je crois qu'ils ne sont pas inutiles. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que on peut faire une analogie entre langage et cuisine. Alors évidemment, par cuisine, j'entends pas simplement l'art de tourner les marmites. Ce que j'entends, c'est un système de règles et de normes. Alors, prenons la phrase « Tous les hommes parlent, mais ils parlent des langues différentes » et regardons si on peut l'appliquer aux cuisines. Et on voit qu'on peut dire « Tous les hommes mangent, mais ils mangent des cuisines différentes » ou plus exactement, ils mangent selon des cuisines différentes, parce que ce que je voudrais manifester ici, c'est que, encore une fois, les cuisines, ce sont des systèmes culturels, des systèmes de normes, de représentation, de classification, et pas seulement des ingrédients et des techniques. De sorte que, toujours analogiquement, hein, ça n'est qu'une analogie, mais ça peut servir, on peut dire qu'il y a quelque chose comme une grammaire et une syntaxe, et que tous les jours, quand nous mangeons, sans le savoir, de la même manière que quand nous parlons sans le savoir vraiment, en tout cas sans y penser à chaque instant, nous appliquons une grammaire et une syntaxe, et nous nous rendons compte de l'existence de cette grammaire et de cette syntaxe quand elles sont transgressées. Quand on fait une faute de français, on est rappelé au souvenir qu'il existe une grammaire. Alors, il y a trois choses qui sont importantes dans ce rapport à l'alimentation. Tous les hommes pensent, classe, catégorisent, l'alimentation en particulier. Tous les hommes sont des omnivores, jusqu'à plus ample informés, et le fait d'être omnivore, c'est une situation paradoxale sur laquelle je vais revenir dans un instant. Il y a un paradoxe de l'omnivore. Et puis, il y a dans notre rapport à l'alimentation une chose absolument fondamentale, une application, une manifestation de cette pensée magique dont il a été question tout à l'heure, et qui est l'idée que je suis ce que je mange, c'est-à-dire que si j'absorbe quelque chose, ce que j'absorbe va me transformer et je vais finalement, d'une certaine manière, ressembler à ce que j'absorbe. Alors, les catégorisations, il y a déjà une catégorie extrêmement simple, de base, qui nous paraît aller de soi, qui est évidente, qui est qu'est-ce qui est de la nourriture, qu'est-ce qui n'est pas de la nourriture, et même ça n'est pas aussi évident. Puisque si nous promenons à travers le monde, nous voyons qu'il y a des produits qui sont de la nourriture, des espèces qui sont de la nourriture dans certains coins du monde ou de certains groupes humains et qui n'en sont pas ailleurs. Et bon, ça, je pourrais vous montrer des choses qui nous paraissent peu ragoûtantes. Par exemple, ça, ce sont des chauves-souris sur un marché laotien. Ça, c'est du chien qui est en train de griller. Ça, c'est ce que j'appelle des brochettes pékinoises que j'ai photographiées à Pékin, mais au centre-ville. Il n'y a pas besoin d'aller très dans des endroits très reculés, dans un marché de nuit il y a quelques mois. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, on se rend compte un petit peu de quoi il s'agit. Ici, vous avez des brochettes de scorpions. Ici, ces petites choses noires, là, ce sont des hannetons. Et là, ce sont des sauterelles. Le reste est tout à fait banal à côté de ça. Alors tout ça est présenté laqué dans une... Et est censé avoir des tas d'avantages nutritionnels en même temps que gastronomiques. Donc, les catégories les plus fondamentales, les plus évidentes, celles qui nous paraissent relever du biologique, sont en fait culturellement variables. Tout ce qui est biologiquement mangeable n'est pas culturellement comestible. Deuxième chose, donc il y a toutes sortes de catégories, n'est-ce pas, de classes et de boîtes qui descendent en cascade, si j'ose dire, une fois que vous avez déterminé le comestible et le non comestible. Et ça se rattache aux systèmes médicaux, aux systèmes de représentation divers, etc. Je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant. Deuxième idée, la syntaxe, la grammaire, si on n'en est pas convaincu, on peut faire une expérience imaginaire. J'ai essayé très souvent, ça marche. Voilà, vous imaginez un restaurant dans lequel, par hypothèse, on n'applique aucune des règles qui structurent quotidiennement notre alimentation. Et de façon très improbable, d'ailleurs, on va donner 3 étoiles à ce restaurant. Et on va commencer par regarder ce qu'il y a au menu. Et on va voir qu'ils offrent 2 repas, ce qui est déjà un peu curieux, un petit déjeuner, un dîner. On regarde les horaires de service de ces repas et on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu fantaisistes, ce qui nous rappelle au passage, par l'absurde, qu'il y a un certain nombre de conventions dans lesquelles nous fonctionnons quotidiennement et qui assignent des horaires à des occasions de prise alimentaire qu'on appelle repas, que d'ailleurs ces horaires et le nom de ces repas ont varié à travers le temps, à travers l'espace, et que tout ça est en effet d'un relativisme culturel tout à fait vertigineux, et que quand on regarde dans le détail ce qu'on mange au cours de ces repas, on s'aperçoit que dès qu'on transgresse un petit peu les menus habituels, on est très choqué. Vous voyez, on peut manger des fruits exotiques au petit déjeuner, ça ne va pas choquer grand monde. Les spaghettis carbonara, ça commence à devenir un peu bizarre. Et alors que, me rappellent mes amis anglais, les écoliers britanniques ont, paraît-il, l'habitude souvent le matin de manger des spaghettis sur toast. Vous voyez que vous pouvez boire du thé au petit déjeuner, mais s'il est glacé et que vous êtes un puriste, ça va plus. Vous voyez, enfin bref, tout ça pour montrer, donc, comme je vous l'ai annoncé, que nous appliquons quotidiennement des règles, que ces règles, nous les transgressons et nous voyons qu'elles ont une prégnance considérable sur nous-mêmes. Donc, ces grammaires et ces syntaxes, elles ont un effet, elles structurent notre alimentation, elles structurent, si j'ose dire, nos choix. C'est-à-dire qu'elles prennent en charge, sans que nous ayons à y penser nécessairement, implicitement, une partie de nos choix alimentaires. Alors, j'avais annoncé le paradoxe de la condition d'omnivore. Alors, il faut d'abord rappeler ce que ça signifie d'être un omnivore. Il y a une chose qui est évidente pour tout le monde, c'est que c'est un régime, c'est une condition qui permet une plus grande liberté. On a le choix par définition, et donc on peut changer, on peut s'adapter. S'il y a des problèmes dans l'écosystème, on peut y faire face en modifiant notre sélection d'aliments. Et ça confère aux espèces omnivores une très grande souplesse, une très grande adaptabilité et en général un succès dans l'évolution considérable. Mais ce dont on se souvient moins, c'est que dans le fait d'être omnivore, il y a aussi de la contrainte. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas se passer d'une variété minimale, parce qu'on ne peut pas synthétiser tous les acides aminés dont on a besoin, et par conséquent, l'innovation apparaît sous cet angle non plus comme une liberté, comme une faculté, mais comme une nécessité absolue. Donc ça pose le problème de critères de choix. Comment est-ce qu'on va reconnaître ce qui est de la nourriture, ce qui n'en est pas, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? On a des critères biologiques, il y a certaines saveurs dont on nous montre qu'elles sont associées, semble-t-il, à des préférences ou des aversions innées. Mais il y a aussi d'autres critères de choix, et c'est un peu sur ces autres critères de choix qu'il faut s'interroger, c'est-à-dire essentiellement des critères culturels, collectifs, etc. Alors, en quoi tout ceci nous conduit-il à une situation paradoxale? Eh bien, quand on regarde le statut de l'innovation en matière d'alimentation chez l'homme, on voit qu'il y a d'un côté une dimension de danger, mais de façon parallèle une dimension de nécessité. C'est-à-dire qu'il faut affronter quotidiennement, continuellement, le danger associé à la nouveauté, à l'inconnu. Il y a des enjeux de sécurité, il y a la question de la variété. Donc nous sommes, pourrions-nous dire, à la fois néophobes et néophiles par nécessité. Quand même, contradiction assez importante, difficile à résoudre. Il y a un calembour en anglais qu'on ne peut pas faire en français, mais qui est très très parlant, que j'emprunte à mon ami Paul Rosine. Familiarity breeds content, vous changez une lettre, c'est-à-dire de la familiarité naît la satisfaction, en fait. Et vous ajoutez un P, ça devient contempt, et contempt c'est le mépris, le dédain. Donc ce qui est familier, ça nous sécurise, mais ce qui est familier, ça nous rase aussi, ça nous ennuie, et nous avons du mal à le supporter. Et tout ça, toutes ces contradictions-là, débouchent sur une notion d'anxiété consubstantielle à l'état d'omnivore, parce que, encore une fois, nous sommes tiraillés entre des impératifs aussi contradictoires. Il faut se débrouiller avec ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire que la cuisine, les règles plus ou moins absurdes et arbitraires que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure dans mon exemple de restaurant imaginaire, et dont on peut se demander quelles fonctions elles peuvent avoir, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'elles contribuent à résoudre le paradoxe. C'est ça, me semble-t-il, la fonction première de la cuisine, des cultures culinaires. D'un côté, vous avez des aliments inconnus, de l'autre, vous avez des aliments familiers. Ils présentent chacun des inconvénients. Les inconnus parce qu'ils font peur, les familiers parce qu'ils lassent. Et puis, vous avez la question du choix, reconnaître les aliments qui sont des bons aliments. Et la cuisine, finalement, c'est quelque chose qui nous permet d'accommoder les aliments inconnus à une sauce familière, donc de les acclimater, de les apprivoiser. Et c'est en même temps quelque chose qui nous permet d'introduire de la variété dans ce qui est familier, c'est-à-dire de nous faire mieux supporter la monotonie quotidienne, par exemple, de quand on a un aliment de base et qu'on a un certain ennui à le consommer tous les jours. Quand on va au Portugal, on vous dit toujours le bacalao, la morue séchée, il existe X façons de le préparer, plusieurs centaines, et en effet, vous pouvez varier les plaisirs, même si vous avez un aliment monotone. Et puis, sur le plan des critères de choix, ça a un grand intérêt, c'est que ça ne nécessite pas, ou ça nécessite moins, de subir le poids, la responsabilité de la décision, du choix pour l'individu. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est beaucoup posé dans le passé, mais c'est quelque chose qui se pose beaucoup aujourd'hui, la question de la décision en matière alimentaire. Finalement, nous n'étions pas préparés, si bien que ça, à choisir chaque aliment que nous allions faire pénétrer dans notre corps. Voilà, je vous propose de comparer, là encore, de manière... ce sont des idéotypes, hein, c'est... Il n'y a pas de réalité derrière. Supposons, imaginons une société traditionnelle, si on sait ce que c'est. Comment est-ce que se caractérise le rapport au choix alimentaire? Mais ça, on pourrait regarder d'autres domaines de la vie quotidienne, et je crois que ce serait du même ordre. D'abord, il y a une dimension d'hétéronomie. Hétéronomie de la règle qui n'est pas créée à l'intérieur de l'individu, n'est-ce pas, qui est extérieure à l'individu, qui lui est imposée de l'extérieur. Ce sont des règles qui sont très contraignantes, par exemple des règles religieuses, par exemple des usages, par exemple des, des périodes de jeûne, des horaires de repas, etc. Parce que quand on étudie, par exemple, dans les années 60, Yvonne Verdier a étudié les repas bas normands chez des fermiers de Basse-Normandie en France, hein, il ne fallait pas aller très loin, et elle observait une extraordinaire régularité des cycles alimentaires, c'est-à-dire avec des menus qui ne variaient guère, avec des horaires qui ne variaient guère, avec une division des tâches qui était toujours la même, des rituels, etc., qui ne changeaient finalement que le vendredi quand il fallait faire maigre et que le lard était remplacé par du hareng fumé, ou l'été en fonction des travaux des champs, etc., ou au moment des fêtes religieuses. En revanche, si on prend la situation qui se développe de plus en plus dans le monde urbain, occidental, développé, etc., il y a beaucoup plus grande autonomie des sujets, qui peut confiner à l'anomie d'ailleurs, parce que l'anomie, c'est-à-dire absence de règles et de repères pour opérer ses choix. Et le problème, c'est justement qu'il faut décider, l'abondance, la pléthore, tout ça crée une nouvelle situation dans laquelle le souci essentiel va être qualitatif et non plus quantitatif. Il va falloir se trouver que choisir et selon quels critères. D'où une sorte de cacophonie de conseils, de prescriptions, de mise en garde qu'on observe et qu'on mesure, le nombre de publications, les thèmes dans les médias, les discours, les études, les questionnaires, les enquêtes, etc. Tout ça montre qu'il y a à la fois une offre et une demande considérable de conseils pour organiser, régler son alimentation sur un plan quotidien. Et comme ces conseils sont, ces orientations sont assez cacophoniques, ça n'est pas de nature à régler le problème de l'anxiété de l'omnivore dont je parlais tout à l'heure. Voilà une illustration de certains aspects de l'alimentation moderne. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'il y a une crise de régime, que tout ça favorise un regain d'anxiété. Alors j'ai parlé déjà à deux reprises de pensée magique et d'alimentation, je voudrais essayer de rentrer rapidement là-dedans et de vous raconter, de vous montrer aussi brièvement que possible de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la pensée magique ? Quand les premiers anthropologues ont compilé les observations qui étaient faites dans les différents groupes humains que visitaient les explorateurs et les colonisateurs, n'est-ce pas, en particulier au XIXe siècle, ils ont isolé deux principes caractérisaient ce qu'ils appelaient la pensée magique. Le premier principe, c'est l'idée de contagion. L'idée de contagion, c'est si je touche quelque chose, il passe quelque chose entre la chose touchée et moi-même, par exemple une pollution quelconque, une souillure, et il reste forcément quelque chose de cette transmission. Il va falloir procéder à des rites élaborés et complexes pour se purifier, et c'est même pas gagné d'avance. Ça, c'est l'idée de contagion. Sans qu'on s'interroge sur le vecteur de la contagion, sur le déterminisme préside à cette contagion. Puis deuxième idée, deuxième loi, disons, le principe de similitude. L'idée de similitude, c'est l'image égale l'objet. Donc je prends la statuette, je décrète que c'est mon ennemi, et de manière analogique, les sévices que je vais faire subir à la statuette vont se traduire par des souffrances chez l'ennemi. Alors, l'intérêt dans le domaine de l'alimentation de ces deux concepts, on le voit assez rapidement, c'est que dans notre rapport à la nourriture, nous télescopons les deux. C'est-à-dire que l'idée, je suis ce que je mange. Si je mange du lièvre, je vais courir aussi vite qu'un lièvre, n'est-ce pas? On peut en citer des pittoresques. Tiens, vous avez mangé du lion ce matin, dit-on à quelqu'un qui est particulièrement dynamique. Ou bien, en Nouvelle-Guinée, dans un groupe en particulier, il y a ce conseil pour les adolescents. On leur conseille de manger des plantes à pousse rapide. Etc. Alors, on rit jusqu'au moment où on commence à s'interroger sur les manifestations de cette pensée magique dans notre propre culture et dans notre vie quotidienne. Toujours est-il que, avant de rentrer là-dedans, Pourquoi est-ce que cette idée d'incorporation est un télescopage de la contagion et de la similitude? Parce que le fait de manger quelque chose, c'est le contact le plus intime qu'on puisse avoir avec un objet. Et la similitude, on voit bien que l'idée de l'image égale l'objet passe à travers, par exemple, cette idée, ce conseil de manger des plantes à pousse rapide, la transmission par la similitude. Alors, bien entendu, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, il ne s'agit pas seulement de peuplades primitives. Regardez la publicité pour les produits alimentaires. Je vous passe les expériences absolument éblouissantes que font les psychologues sociaux pour montrer la prévalence de la pensée magique, de l'idée de « je suis ce que je mange », par exemple, etc., dans les populations tout à fait civilisées, si tant est que nous sommes civilisés. Je vous invite, la prochaine fois qu'il y a un match de football à la télévision, à regarder cette publicité pour une barre qui s'appelle la barre Lyon, et dans laquelle, avec un morphing, on voit un procédé de informatique, on voit un joueur se transformer en lion rugissant, tout ça étant associé, bien entendu, à la consommation de la barre du même nom. Alors, ce principe d'incorporation, vous voyez, on le retrouve dans les dictons bien de chez nous. Qu'est-ce qui se passe si vous remplacez l'ours par la vache? Et vous le retrouvez même, on peut le mesurer d'une certaine manière. Voilà par exemple une question posée dans une enquête sur 640 sujets de niveau d'éducation et d'âge plutôt plus élevé que la moyenne nationale. Ah non, c'est pas là, pardon. Ça, c'est une citation, voilà. On est ce qu'on mange. C'est un verbatim dans une enquête par interview. On en a plusieurs comme ça qui sont très, très parlants. Si on donne une luciole à un serpent, il devient transparent. Voilà l'enquête en question, 640 sujets. D'accord, pas d'accord, les travailleurs de force ont besoin de viande rouge. Bon, vous voyez qu'il y a quand même une majorité encore en cette époque de remise en cause de la viande et dans cette population, encore une fois, très soucieuse de santé et majoritairement féminine en outre, vous voyez que l'effet de l'ingestion de certains aliments avec des vertus particulières reste observable. Bon, quand on écoute ce que disent nos contemporains, on voit que l'idée de être ce qu'on mange est omniprésente. Alors, je dis nos contemporains, là, la citation que je suis en train de dérouler sur l'écran, elle est beaucoup plus ancienne, elle a 30 ou 40 ans. C'est un dialogue entre des paysans bretons qui parlent d'un pâté en boîte qu'ils mangent tous les jours. Et rien ne vaut le naturel, là, au moins, on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on mange. 1965. Bon, ça, c'est de 96, au moment de la vache folle. On ne sait pas ce qu'on mange. Donc, j'ai cherché à attirer votre attention sur l'importance de cet énoncé qu'on retrouve de façon permanente dans la bouche de nos semblables, si j'ose dire, n'est-ce pas, des consommateurs, des citoyens, etc., depuis qu'ils ont dans leur assiette des produits transformés par l'industrie. Et cette phrase, c'est « on ne sait pas ce qu'on mange, il faut savoir ce qu'on mange ». De sorte que il me semble qu'on peut énoncer le malaise du mangeur contemporain, du mangeur de l'âge industriel ou post-industriel comme ceci. Si je suis ce que je mange et si je ne sais plus ce que je mange, voilà en somme l'anxiété fondamentale qui s'inscrit derrière tout ça. Et je vous demande de regarder autour de vous et d'écouter autour de vous, de vous écouter, de nous écouter nous-mêmes, n'est-ce pas, quand nous parlons, parce que ça concerne tout le monde. Les OCNI, ce sont les objets comestibles non identifiés et ce sont les produits transformés par l'industrie, c'est-à-dire qu'il s'agit de produits manufacturés, de produits conditionnés, marketés, etc. Et nous n'avons qu'une expérience abstraite, finalement, de leur existence. Pour caricaturer, nous ne les avons pas vus pousser au pied de nos maisons ou grandir au pied de nos maisons. Donc, ces objets concernent toujours une part de mystère. Cette part de mystère est irréductible et on va essayer de la compenser, et on va la compenser par des pis-aller, disons, des labels, des marques, des étiquettes plus ou moins détaillées, des signes divers et variés. Et puis certains d'entre nous vont régler le problème en adoptant des stratégies spécifiques, alimentaires. Ils vont se doter de régimes particuliers, ils vont adhérer à des sectarismes alimentaires, ils vont, etc. Bien. Et puis, dernière partie de cet exposé, les aspects socioculturels. Alors, je vais accélérer un petit peu et je vais essayer de vous montrer, bon, sinon on va passer vite. Le risque alimentaire, le risque en général, est perçu de façon très différente suivant les classes, les sexes, les âges, etc. C'est encore peu étudié, en matière alimentaire en particulier, on s'y est attelé. D'une manière générale, on note presque partout que les femmes jugent les risques les plus élevés que les hommes, sauf dans un cas qui a été publié il y a 2-3 ans aux États-Unis, où on voit que la différence homme-femme disparaît chez les colored, c'est-à-dire les noirs, les latinos, etc. Pourquoi ? Hypothèse des auteurs, parce que donc les hommes blancs jugent les risques toujours moins graves que tous les autres groupes. Le statut sociopolitique, la connaissance et le sentiment de maîtrise des rouages et des mécanismes de la cité qui seraient d'une certaine manière sécurisants, c'est-à-dire la proximité par rapport au levier du pouvoir et de l'activité économique et politique. Alors pour notre part, nous avons juste achevé une enquête comparative qui nous permet d'illustrer les différences transnationales, transculturelles, considérables qui peuvent exister dans le rapport à l'alimentation proprement dite, et donc aux inquiétudes, aux anxiétés que comporte l'alimentation. Alors, je vais passer rapidement parce que on n'a plus le temps, je n'ai plus le temps, et je vais vous montrer directement les résultats. On a posé à 4 groupes, bon, je vais vous parler de 2 groupes, des Français et des Américains, un questionnaire qu'on a pris grand soin d'adapter autant que possible, évidemment, dans les deux langues, ce qui n'est pas une tâche facile. Et on a essayé d'évaluer un certain nombre de dimensions qui sont les suivantes. Donc le fait de consommer des produits sans quelque chose, donc la préoccupation de régime, le rôle de la préoccupation santé dans les choix alimentaires, le niveau d'anxiété, la croyance dans un lien entre la santé et l'alimentation, des conceptions positives de l'alimentation dans la vie, par exemple, l'alimentation c'est un des grands plaisirs de l'existence, d'accord, pas d'accord, etc. Une façon culinaire ou diététique de penser la nourriture, est-ce que vous pensez en termes de blanquettes de veau ou en termes de glucides, lipides et calories? Et une sorte de niveau de satisfaction, de confort vis-à-vis de l'alimentation, disons, j'ai une alimentation saine. Et alors les résultats, ça donne quoi? Alors il y avait des Belges, des Japonais, je les laisse de côté, je vais à l'essentiel. On voit que les Américains... Comique involontaire, je vais à l'essentiel parce que je pense que la différence la plus marquée et la plus amusante et la plus intéressante se manifeste entre les Français et les Américains, encore que les Belges soient très proches de nous. Ici, en vert, vous avez les Américains. Donc, en ce qui concerne la consommation, l'utilisation de produits sains, ils sont en haut. Nous sommes ici. Le rôle de des préoccupations santé dans les choix alimentaires, voilà la colonne qui figure le score des Américains, nous sommes ici. En ce qui concerne le score d'anxiété, les Américains font très fort. Tout le monde partage la croyance d'un lien entre la santé et l'alimentation, avec des variations qui ne sont pas significatives. La légitimité du plaisir, la dimension positive dans le rapport à l'alimentation, je vous laisse découvrir. Regardez où sont les Américains. La façon de voir et de parler de l'alimentation, plutôt en termes culinaires qu'en termes diététiques, ben, nous sommes ici, ils sont là. Les Japonais sont en tête, mais ça nécessiterait un exposé entier à soi seul. Et d'une manière générale, l'adhésion à la formule, dans l'ensemble, je considère que j'ai une alimentation plutôt saine. Les Américains sont ici, les Français sont ici. Ce que nous pouvons traduire une façon qu'il faudrait que je vous explique, une petite technique, une cuisine qui nous permet de représenter les mêmes résultats sous forme de physionomie, c'est-à-dire qu'on prend toutes les variables et on les code de telle manière qu'elles vont participer à la représentation d'une physionomie en donnant l'expression qui correspond. Alors vous voyez, ça va donner ça. Ici, vous avez les femmes américaines et ici, vous avez les hommes français. Et ce qui est très important, c'est que nous retrouvons ici, à travers les quatre échantillons culturels, cette différence dont je vous parlais tout à l'heure entre les sexes. Ce sont toujours les femmes qui sont du côté légèrement plus négatif, plus anxieux, moins culinaire et plus diététique, moins du côté du plaisir, plus du côté de l'anxiété, etc., dans les quatre cultures, à peu près. Voilà. Alors, pour terminer là où j'étais parti, je dois dire deux mots sur cette idée de rationalité qui a été soulevée très, très fréquemment à propos de l'alimentation. Je vous ai parlé de pensée magique dans l'alimentation. Je vous rappelle l'histoire de Perrier il y a quelques années. On trouve des traces de benzène dans le Perrier, tout à fait inoffensif, n'affecte pas le goût, quoi que ce soit. Un laboratoire américain a fait des analyses avec de nouvel équipement qu'ils ont. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, le slogan de Perrier, c'est parfait, c'est Perrier. Alors la perfection ne se divise pas, et même si c'était infinitésimal, que faire ? Alors on peut expliquer, dire c'est inoffensif, etc. C'est ce qui est le premier réflexe. Et puis on s'aperçoit que les explications ont un effet boomerang et ne font que renforcer l'indignation. C'est la situation dont je vous parlais au début. Et la décision qui a été prise, ça a été de retirer purement et simplement, vous vous en souvenez peut-être, toutes les bouteilles, absolument toutes les bouteilles dans le monde entier. Moyennant quoi, on a sauvé la marque, on n'a jamais retrouvé les niveaux de consommation antérieurs, et on a été obligé de vendre la société 2-3 ans plus tard. Mais c'était la seule façon de survivre, et ça, ça a été pris par les gens qui ont étudié le cas comme la preuve que la perception du risque est au moins aussi importante que la réalité du risque dans certaines situations, c'est bien le cas là. Ça veut dire que nous sommes irrationnels. Peut-être, il y a une partie de nous qui est irrationnelle, c'est-à-dire que le principe de contagion, de similitude, nous l'éprouvons tous les jours. Si je vous demande de déchirer une photo de vos enfants, c'est une expérience qui est faite couramment, on mesure l'envie que les sujets ont d'obéir à l'injonction de déchirer la photo de ses enfants. Même si vous avez des négatifs, même si vous avez d'autres tirages, c'est difficile de déchirer la photo de ses enfants ou d'une personne qu'on aime. C'est plus facile de porter un vêtement qui appartient à une personne qu'on aime qu'un vêtement qui appartient à son pire ennemi. Il y a des études qui le montrent et je pense qu'il suffit de faire un peu d'introspection pour s'en rendre compte. Donc, d'une certaine manière, il y a une part en nous qui reste profondément archaïque, profondément sujette à ce genre de mécanismes. Ce que j'appelle la croyance clignotante, c'est-à-dire que nous oscillons sans arrêt entre ça et puis la formation scientifique ou autre que nous avons subie. Puis nous évaluons aussi le bénéfice et le coût de tout ce qui nous entoure. Par exemple, dans les histoires de vaches folles, on voit très bien que, ou dans les histoires de produits supposés dangereux, on voit très bien que le comportement des consommateurs n'est pas aussi irrationnel que les médias le disent. Le rapport coût-bénéfice qu'il y a à éviter le Coca-Cola pendant quelques jours quand les médias sont pleins de mises en garde ou d'histoires dramatiques très peu précises, ça me paraît assez favorable. Après tout, on ne se prive pas énormément, on peut le remplacer éventuellement, on peut s'en priver aussi quelques jours, ce n'est pas quelque chose d'absolument irrationnel. Est-ce que les producteurs disent que les consommateurs sont irrationnels, ils veulent de la bonne qualité, du goût, et en plus, il faut que ça soit sain et pas cher. Alors ça, il n'y a que pour les producteurs que c'est irrationnel. Pour les économistes, à mon avis, c'est le comble de la rationalité, parce que c'est l'optimisation du rapport coût-bénéfice. Les peurs alimentaires sont-elles irrationnelles? Ça serait un chapitre en soi. Il y en a qui sont vraiment très inquiétantes, je veux dire des crises alimentaires qui sont très inquiétantes et très incertaines. Par exemple, la vache folle, aujourd'hui, maintenant, on est absolument incapable de dire en combien de zéros il y aura derrière le nombre de victimes. Et ce qui est le plus irrationnel, ce sont probablement les invocations irrationnelles de la raison qui sont faites constamment Et l'un des exemples que je voudrais vous donner, c'est le cas des OGM. Voilà ici la sanction de ce qui se passe quand on croit trop de façon irrationnelle à une forme de rationalité qui était celle des industriels du transgénique. Voilà les surfaces cultivées en transgénique jusqu'en 99, ça culmine ici, on est aux alentours de 40 millions d'hectares, et voilà les projections pour l'an 2000, à la suite de la mobilisation, de l'indignation, ou des crises générales qui se sont développées dans le monde. Les producteurs américains sont très inquiets sur les débouchés de ces récoltes qu'ils ont déjà engrangées, et s'ils en sont là, c'est qu'il y a eu une stratégie de la part des producteurs de transgéniques de passage en force ou de passage en douce qui se révèle aujourd'hui tout ce qu'on veut sauf rationnel. Et c'est ma dernière diapo. Ce sont les marchés qui interviennent dans un exposé comme ça. C'est le cours de l'action de Monsanto depuis 1998. Vous voyez qu'il est plutôt à la baisse. Les affaires de Monsanto, pas seulement à cause des problèmes d'OGM, mais en grande partie, les affaires de Monsanto ne sont pas si bonnes. Merci beaucoup.
Bien, nous allons passer aux questions. Il y en a une là, s'il vous plaît. Levez bien la main parce que je vois personne. Voilà. Ici. Non, d'abord là, puis après là.
Merci. Bonsoir, monsieur. Je prends le risque de parler. J'ai très rapidement deux questions. D'abord, je voudrais vous demander si est-ce que vous avez goûté les brochettes de scorpion, savoir si c'est bon ou pas. Et deuxièmement, je crois avoir compris que le désir de satisfaction du plaisir de similitude, ça veut dire c'est pour ça qu'on décore nos plats quand on mange au restaurant, c'est ça?
Ah.
Eh ouais, satisfaire le désir de similitude, on décore les plats qu'on mange, on fait ça bon.
Ouais. Alors écoutez, les scorpions, j'aurais dû le dire en les montrant parce qu'on me le demande toujours. La réponse est non, cette fois-là, je n'ai pas goûté. Mais j'ai goûté des choses assez étonnantes à d'autres reprises. Et en ce qui concerne la décoration, on peut faire ressembler certains plats à des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film de Fellini... qui s'appelle le Satyricon, je crois. Il y a un banquet, et bien sûr, d'après le Satyricon, et l'art du cuisinier est manifesté par le fait qu'à un moment, il y a une sorte de farce, c'est le cas de le dire. On présente des sangliers, je crois, rôtis, entiers, et puis on les éventre en disant « c'est un scandale, le cuisinier a oublié de les vider ». Et en fait, des entrailles de ces énormes bêtes tombent des poulets et des poissons. Et à l'examen, les poulets sont du poisson en forme de poulet et les poissons du poulet en forme de poisson. Alors ça, c'est la maîtrise totale sur la matière. Je ne suis pas absolument certain que ça aboutisse à rassurer le consommateur, que ça lui permette de savoir ce qu'il mange, donc de connaître les effets sur son corps.
Bonsoir. J'ai toujours l'image dans la tête quelqu'un qui aurait mangé une bicyclette. Est-ce que l'homme est capable de s'adapter à tous les poisons?
Vous avez toujours l'image d'un homme qui aurait mangé une bicyclette?
Oui. Ouais. on a vu ça à la télé, je crois, une fois.
Ah, d'accord. Écoutez... Je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a un mouvement artistique italien au début du siècle, n'est-ce pas, qui s'appelait le futurisme, si je ne m'abuse, Marinetti. Les manifestations des futuristes incluaient des festins au cours desquels on consommait une substance mystérieuse dont il n'était pas très clair s'il s'agissait d'un produit animal ou d'un produit, d'un artefact qui s'appelait le carne plastico. Et puis je crois qu'il y avait des boulons pour décorer les plats, des choses comme ça. Alors, peut-être qu'ils avaient commencé à démonter votre bicyclette. Peut-être.
Une question ici.
Face aux irrationalités humaines, il y a les rationalités animales, si on peut dire, dues à des réflexes conditionnés, c'est-à-dire que l'animal qui a souffert d'une alimentation déterminée évite dans l'avenir ce qui pourrait lui faire mal. Alors, est-ce que ça ne fonctionne pas par analogie, là aussi ?
Je ne sais pas si ça fonctionne par analogie, mais les irrationalités humaines sont... Je vais peut-être passer un peu vite à la fin sur ce thème qui me tient à cœur, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'Edgar Morin que Homo sapiens est aussi, et peut-être surtout en même temps, Homo demens. C'est-à-dire que le caractéristique de l'espèce humaine, c'est peut-être de se servir de son cortex, mais c'est aussi de croire à la survie des morts, de croire en toutes sortes de manifestations de l'au-delà, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de consubstantiel à l'hominisation même qui fait que nous oscillons entre sapiens et demens. Alors, je pense que ça présente certainement des avantages, pas seulement des inconvénients, y compris dans le domaine alimentaire, parce que nos soi-disant irrationalités ou nos irrationalités, par exemple nos peurs irraisonnées, etc., elles nous ont peut-être protégés dans le passé. Peut-être que la croyance magique dans la contagion a, grosso modo, plutôt un effet total au cours de l'évolution protecteur. Enfin, peut-être s'agit-il, en d'autres termes, de quelque chose de ces... Vous savez, c'est ce qu'on appelle les heuristiques, c'est-à-dire ces espèces de modes de fonctionnement, de pensée à la louche, un petit peu grossier, que nous mettons en œuvre, dont les cogniticiens nous disent que nous les mettons en œuvre dans la vie courante. Alors, en ce qui concerne la sagesse du corps, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'aptitude des organismes à réguler leur prise alimentaire, nous ne sommes pas moins sages que les autres. Finalement, d'une certaine manière, nous sommes beaucoup plus. Mais ce qui se passe, c'est que nous arrivons à une ère où, paradoxalement, nous devons, certains d'entre nous, certains pays, certaines cultures, plus que d'autres, considèrent qu'il faut entièrement, intégralement rationaliser l'alimentation et les choix alimentaires. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on commence à pêcher par véritable irrationalité. Par exemple, prenons un exemple qui met toujours tout le monde d'accord, les États-Unis, en ce qui concerne l'alimentation. Vous allez aux États-Unis, vous regardez dans ce pays qui se veut le pays du libéralisme, en tout cas pour la libre entreprise, etc., à quel point les conduites individuelles sont encadrées par la puissance publique en ce qui concerne l'alimentation. C'est extraordinaire. D'abord, il y a des nutritional guidelines officielles, c'est-à-dire des directives nutritionnelles à l'usage de la population américaine qui sont émises par le gouvernement. Il y en a qui viennent du ministère de l'Agriculture, il y en a qui viennent du Surgeon General, c'est-à-dire du ministère de la Santé. Mais en gros, tout le monde connaît la pyramide. Il y a une pyramide nutritionnelle. La base de la pyramide, c'est ce qu'il faut manger plusieurs fois par jour. Le sommet de la pyramide, c'est ce qu'il faut manger rarement, parce qu'on n'ose pas dire pas du tout. Et... tout le monde censé appliquer, grosso modo, ces directives. Et puis, il y a l'étiquetage détaillé fourni par la fameuse FDA. Et puis, il y a les apports RDA, Recommended Daily Allowances, les apports nutritionnels journaliers recommandés, n'est-ce pas, sur les étiquetages. Donc, vous vous rendez compte que ce que le consommateur américain est censé faire, c'est quoi ? Prendre ces directives stratégiques d'en haut, de la pyramide. Ensuite, aller dans son supermarché, regarder les produits, l'étiquette, voir tous les ingrédients, jusqu'à la dernière molécule, calculer combien ça représente par rapport à ses apports journaliers conseillés, computer tout ça et en sortir avec une alimentation rationnelle et saine qui lui évitera les maladies coronariennes, les cancers et surtout l'obésité. Alors, la réalité, évidemment, c'est qu'ils ont le taux d'obésité le plus élevé au monde. Ils ont une prévalence des maladies coronariennes qui est entre 2 et 3 fois supérieure à la nôtre, d'après les chiffres que j'ai en tête. Et il est clair qu'il y a une erreur qui est commise. C'est pas comme ça qu'on mange. Personne ne mange comme ça. Je veux dire, l'acte alimentaire n'est pas une décision individuelle que chacun de nous prend quotidiennement en s'armant des derniers cris de la science, de la médecine, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Si on mange ce qu'on mange, c'est parce qu'on appartient avant tout à un groupe social, que ce groupe social a des usages, des grammaires et des syntaxes dont je vous parlais tout à l'heure, et que finalement une bonne partie de nos choix alimentaires sont dictés comme ceci, et que finalement ça semble plus favorable sur le plan de la santé d'une certaine manière que cette utopie, je crois qu'il faut dire le mot, cette utopie, mais au sens négatif, presque totalitaire, de l'alimentation rationnée.
Une question là, puis une là-haut.
Oui, les nutritionnistes s'accordent pour affirmer que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Quelles sont les raisons sociologiques de la désaffection de ce premier repas quotidien chez la plupart des Sud-Européens par rapport à la pratique quotidienne chez la plupart des Nord-Européennes? Viennent-elles d'un manque de temps, du climat, d'habitudes alimentaires, ou y a-t-il d'autres raisons plus profondes?
Je vais vous décevoir. Je pense que ce qu'il faut expliquer, ça n'est pas pourquoi les Français ou les Italiens prennent aujourd'hui un petit déjeuner très léger. Ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi on peut commencer la phrase, en général sans être contredit, comme vous l'avez fait, par les nutritionnistes s'accordent pour dire que le petit déjeuner, etc. Parce que si vous regardez la littérature scientifique, vous vous rendez compte que rien, absolument rien, ne permet de justifier cet énoncé. Et je ne vous le reproche pas parce que c'est partout. On entend constamment le petit déjeuner doit représenter 25 à 30% des calories quotidiennes, des apports caloriques quotidiens. Et quand on met au défi quiconque prononce cet énoncé, n'est-ce pas, d'en citer les sources, il en est bien incapable parce que, en réalité, la seule littérature qu'on a, elle est soit contradictoire, soit carrément absente. Et je soupçonne pour ma part que cette thèse s'est surtout développée à partir des années 80 en France, date à laquelle les producteurs de céréales de petit déjeuner des pays d'Europe du Nord dont vous parliez tout à l'heure ont commencé à accroître considérablement leur pénétration sur le marché européen, sur le marché français et sud-européen. Je crois que la nutrition est souvent mise à contribution de façon peut-être excessive, mais elle en est aussi coupable. Non ?
Une question rapide là-haut, puis
oui,
là-bas.
Ben, c'est pas une question. Il y a une première chose, c'est que on a fait croire aux Français, puisque ça venait des États-Unis, que les épinards contenaient du fer. Or, rien n'est plus faux. On sait maintenant que ce n'est pas les épinards qui contiennent du fer, mais c'est les lentilles. La deuxième chose, c'est le rituel anthropophagique chez certains groupes d'Indiens d'Amérique du Sud qui a été décrit par Alfred Metro. C'est quelque chose d'étonnant parce que ce rituel, c'était pas seulement l'appétit de manger son semblable, mais ça correspondait vraiment à une espèce de magie. Manger son ennemi, c'était éviter qu'il vienne il vous réserve un mauvais sort. Alors c'était très curieux parce que quand ils avaient des prisonniers, c'était décrit par Alfred Metro qui était un anthropologue, ils l'engraissaient et le dernier jour, il lui offrait une femme, il passait la nuit avec et après il l'assommait, il le coupait en morceaux, il mangeait ses entrailles. Voilà.
Merci.
Il y a beaucoup de recettes au moins aussi savoureuses que la vôtre monsieur, du côté cannibale. Alors, métro, il y a Pierre Clastre qui parle des Guayaquis, qui, eux, ne tuent pas leurs adversaires au combat, mais mangent leur propre mort, parce que l'endocannibalisme est au moins aussi répandu, probablement, que l'exocannibalisme. Et ce faisant, même processus d'incorporation, c'est-à-dire que, au lieu d'incorporer les vertus supposées de l'adversaire, on fait perdurer en soi l'être cher, l'être aimé, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il continue à vivre en celui qu'il a mangé. Et je vous rappelle que dans l'histoire de l'encéphalopathie spongiforme bovine, il y a le précédent de cette autre variante ou parente de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est le courroux. Et le courroux a été observé et étudié en Nouvelle-Guinée dans les années 50 par Guy Douzek, qui s'est aperçu que la maladie et sa distribution, en particulier entre les sexes et les âges, c'était les femmes et les enfants qui étaient plus touchés que les hommes. Alors la distribution de la maladie s'expliquait justement par les pratiques, les rituels cannibales. Parce que les forêts, qui étaient l'ethnie en question, le groupe en question, se distribuaient, si j'ose dire, les morceaux. Et les hommes consommaient les muscles, la chair, et en revanche, la cervelle, et ce qu'il faut dire, les abats, étaient réservés aux femmes et aux enfants. Et quand on a mis fin à ces pratiques, on a vu graduellement disparaître la maladie. Alors, mais pourquoi diable est-ce qu'on en est venu à parler de cannibalisme ? Ah oui, l'incorporation. Absolument, l'incorporation.
Une toute dernière question, là.
Oui, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on discute un peu du sexe des anges. Quand on va dans les hôpitaux, on voit actuellement des gens qui se baladent avec des petites vessies en plastique. On enlève des reins à tour de bras. Le cancer est devenu la première cause de mortalité. On vient de jeter 10 millions de choux-fleurs en Bretagne alors que l'eau est pleine de nitrate, les gens peuvent plus boire l'eau du robinet, etc., etc. On emploie des produits, le dinotherme qui est un produit affreux, le blé traité 10 fois, la farine est blanchie au mercure. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper un peu justement de cette malbouffe, vous voyez, qui est en train de nous tuer là en ce moment
Écoutez, si elle nous tue, nous avons la vie dure. Si elle nous tue, nous avons la vie très très dure, puisque l'espérance de vie augmente dans des proportions sans précédent. Ah, le débat va être passionné là.
Merci. Oui, non, s'il vous plaît.
Non, mais tenez le micro là. Je vous entends pas, pardon.
Juste un micro.
Surtout aujourd'hui, hein, comme monsieur. Vous avez dit que les Bretons, ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient quand ils mangeaient du porc, quand ils mangeaient du tourteau.
Attendez, madame, calmez-vous. Je n'ai rien dit de pareil. Je n'ai absolument rien dit de pareil. J'ai cité...
Voilà.
La même chose.
Oui.
J'ai cité des propos recueillis par un chercheur en 1965 qui me les a communiqués personnellement, entre guillemets, c'est une citation.
Mais c'est sûr. Alors moi, je parle
de jugement.
Alors moi, je parle de linguistique. Les tourteaux que les porcs mangent, c'est les débris de la végétation qu'on n'a pas utilisée pour l'industrie. Mais le tourteau, c'est un crabe qui s'appelle cancer. Alors, vous voyez, comme le monsieur parlait d'analogie, c'est une analogie très scientifique. Ils mangent du cancer.
D'accord.
Maintenant, pourquoi les vitamines s'appellent vitamines ? Parce que quand on les a trouvées, on a découvert, c'est un Japonais d'ailleurs qui a découvert les premières vitamines, parce que la vitamine antiscorbute, la vitamine C, quand les navigateurs partaient longtemps sans fruits frais, ils mouraient du scorbut. Donc vitamine, ça veut dire vie. Alors, dernière chose, comme le monsieur vient de dire qu'en ce moment il y a de la malbouffe, vous n'avez pas parlé des agrumes. La vitamine C qui est anti-cancer. Et au début, vous avez parlé des scientifiques et des non-scientifiques. Il y a un très gros débat en ce moment entre les vrais scientifiques et les scientifiques un peu moins. Les grands scientifiques comme Pauline Cameron, qui ont failli avoir pour la troisième fois le prix Nobel, ont dit que la vitamine C était anti-cancer. Maintenant, on ne parle pratiquement plus, sauf de temps en temps dans les entretiens de Bichat, de cette vitamine C, non pas comme un adjuvant pour supporter les traitements anticancéreux de la vitamine C. Ça, c'est de la biologie, monsieur, c'est aussi de la sociologie. Hein. Vitamine égale vie.
Oui, merci.
Merci, madame.
Bah, écoutez, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là, parce que nous n'avons plus le temps.